Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui Madame Michèle Barrière à la Salle Urbain 5, auteur de Polar historique à composition gastronomique dans le cadre de Jamlir.
C'est quoi Jamlir ?
Jamlir, c'est un salon qui met en scène les livres de façon originale et qui offre une approche différente. Bonjour Madame Barrière.
Bonjour à vous et merci de ce petit moment passé ensemble. Donc j'imagine que vous avez des questions à me poser.
Tout à fait.
En tant qu'historienne, comment êtes-vous devenue romancière ?
Alors, il se trouve que l'histoire, parfois, c'est un grand roman. C'est-à-dire que la véritable histoire, celle qui s'est vraiment passée, quand on la regarde, quand on la lit, quand on l'étudie, on s'aperçoit qu'il se passe des choses tellement extraordinaires qu'on a envie de les raconter et de les mettre en scène. Alors, dans un roman, un roman historique, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on part de faits réels, mais de personnages qui ont existé, mais on met aussi des personnages à soi, de manière à ce que, ma foi, les choses se passent d'une manière un petit peu sympathique. Donc voilà, donc histoire et roman, ça va bien ensemble.
Et pourquoi y avoir ajouté la composante gastronomique ?
Ah, alors, bonne question. D'abord parce que j'aime bien la cuisine, mais surtout la cuisine c'est quelque chose d'intemporel, c'est-à-dire que ça depuis que l'homme est homme, il a mangé. Et moi je suis persuadée que nos très 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 lointains ancêtres dans leur caverne, je suis persuadée qu'ils faisaient la cuisine, enfin qu'ils faisaient attention, qu'il y avait une gastronomie aussi à chaque période il y a eu une gastronomie. Et c'est aussi un moyen pour rentrer justement dans cette grande histoire par cette petite porte des cuisines et la rendre beaucoup plus vivante. Donc, et la cuisine, c'est pas quelque chose de totalement, ça raconte beaucoup de choses sur les gens les gens de notre époque, mais aussi les gens du passé. C'est pour ça que moi, je me suis dit, allez, hop, on va faire des romans historiques, mais avec la cuisine.
Finalement, vous réécrivez l'histoire à travers la gastronomie ?
Alors là, excellente formule, c'est exactement ça. Et ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment expliquer des tas de choses à travers la cuisine. Par exemple, simplement un truc, les grandes découvertes, l'Amérique. Si on a cherché à passer les océans, c'était parce qu'on recherchait des épices. Parce que les épices étaient très à la mode et coûtaient très cher, et donc on a voulu essayer d'aller au plus court. Et donc c'est vraiment ça qui a motivé, curieusement, la découverte de l'Amérique. Alors il se trouve que, en Amérique, il n'y avait pas d'épices, mais il y avait de l'or, il y avait de l'argent, et les conquistadors n'ont pas été déçus du voyage, si je puis dire.
Et pourquoi la Renaissance particulièrement ? Pourquoi cette période-là ?
Alors, j'ai un certain nombre de romans qui se passent à la Renaissance, mais j'en ai d'autres qui racontent l'histoire de la cuisine depuis le Moyen-Âge, et même je suis arrivée actuellement en 1898. Mais la Renaissance, parce que moi c'est une période que je trouve extraordinaire, parce que c'est un moment justement, c'est la période des grandes découvertes, le monde s'élargit. C'est la période aussi de l'humanisme, c'est-à-dire de philosophes comme Erasme, qui ont vraiment fondé notre mode de pensée. C'est des artistes extraordinaires comme Léonard de Vinci. Et donc c'est un siècle de curiosité, de nouveauté, et où moi les gens, je les trouve, les gens de la Renaissance, ils sont extraordinaires parce qu'ils touchent à tout. Et moi ils me font rigoler. Donc c'est pour ça que j'aime bien les mettre en scène.
Nous avons vu que vous avez réalisé une série de documentaires sur Arte. Avez-vous le projet de mettre en scène à la télévision ou au cinéma l'un de vos romans ?
Alors là, moi, je serais absolument ravie, d'autant que la manière dont j'écris est assez déjà scénarisée, donc beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi est-ce que c'est pas à la télé ? Ça serait formidable de voir l'histoire de la cuisine comme ça, à travers ces histoires-là. » Mais c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que la télé, vous avez les chaînes, vous avez les maisons de production, vous avez... Et moi, si... Alors là, demain, on me dit, mais je dis oui, bien sûr. Sauf que jusqu'à présent, ce n'a pas été possible parce que, il faut se dire une chose, c'est que les tourner des films comme ça, ça demande des costumes, des décors, donc ça coûte très très cher. Et actuellement, les chaînes de télé n'ont pas les moyens pour se lancer dans de telles aventures. Mais j'espère qu'un jour, on y arrivera.
Alors, quel est votre plat préféré et pourquoi ?
Là, c'est très 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 dur comme question. Alors là, vraiment, moi, j'aurais bien envie de vous demander c'est lequel le vôtre.
Le couscous, j'aime bien le couscous.
Ouais, bah ça c'est effectivement excellent. Et vous?
Moi c'est frites et steak haché.
Ah ben voilà quelque chose aussi d'absolument excellent. Alors moi le problème c'est que justement j'ai maintenant à mon actif tellement de recettes donc que j'ai découvert là depuis que ce soit au Moyen-Âge à la Renaissance et autres que j'ai le plus grand mal à choisir un plat. Alors par exemple s'il y a moi qui suis pas très dessert, je suis pas très sucre, il y a une recette de 1650 donc pendant le règne de Louis XIV, une recette de tarte au citron que je trouve absolument excellente. Et moi, je vous dis qu'ils n'aiment pas les desserts, et ben, par contre, je m'en régale. Alors, par exemple, oui, cette fameuse tarte au citron, très facile à faire. Donc, 1650, vous voyez, c'est pas récent. Allez, on va dire la tarte au citron de Pierre de Lune. Pierre de Lune, c'est le cuisinier qui a écrit cette recette.
Très bien. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous n'aimez pas, pas cuisiner ?
Oui, il y en a un, c'est la dinde. Je déteste la dinde. Ça, c'est un vieux souvenir d'enfance et malgré mon âge, j'ai jamais réussi à me réconcilier avec la dinde. Alors, vous savez, la dinde, elle a, par contre, elle a une histoire formidable parce que elle vient d'Amérique aussi. Et donc, elle est arrivée au XVIe siècle. Et comme c'était un gros animal, très majestueux, et à l'époque, on aimait bien ce genre de plat, la dinde, elle s'est retrouvée sur les tables des mangeurs du XVIe siècle, alors que d'autres produits, par exemple, venant aussi d'Amérique, comme la tomate ou la pomme de terre, vont mettre des siècles avant d'arriver vraiment à être consommés. Donc voilà, moi, la dinde, c'est pas mon truc.
Avez-vous une astuce culinaire à nous donner, comme par exemple un aliment qu'on n'utilise pas forcément en cuisine ?
Un aliment qu'on utilise. Alors, il y a un truc un produit qui était très très utilisé au Moyen-Âge et à la Renaissance et que j'adore, c'est le verjus. Le verjus, c'est le jus du raisin vert. Et c'est formidable parce que ça a pas l'acidité du vinaigre, mais ça a déjà le fruité du jus de raisin. Alors, on en trouve encore. Et au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'était dans toutes les sauces. Et moi, je sais que j'en ai toujours chez moi maintenant parce que vraiment, c'est quelque chose d'absolument délicieux. Et je regrette beaucoup que ce soit un produit qui soit plus à la mode. Et moi, j'espère bien essayer de faire en sorte que ça se diffuse un peu.
Donc, nous avons essayé de reproduire une de vos recettes.
Oh, mais c'est formidable ! Ça alors, c'est incroyable ! Vous êtes passé en cuisine pour de vrai ?
Oui, on a mis environ 2 heures pour la préparer.
Et alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est comme recette ?
La pizza de Naples.
La fameuse pizza de Naples. Alors, vous avez dû être un petit peu étonnée, parce que ce qu'on connaît comme pizza actuellement, c'est pas tout à fait ce que vous avez préparé.
Oui, c'est sûr.
Alors, donc c'est une recette de 1570, d'un cuisinier italien qui s'appelle Bartolomeo Scappi, que j'aime beaucoup, 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 qui était cuisinier du pape. Et cette fameuse pizza, en fait, c'est une tarte de fruits secs, puisqu'il y a, un peu de tout. Il y a des raisins secs, il y a des figues. Moi, je ne me souviens plus, puisque vous l'avez fait, vous savez encore mieux que moi. Et c'est vrai que ça fait une tarte qui est riche, c'est bien en hiver. Mais moi, j'ai trouvé que c'est... Alors, je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas goûté encore ?
Non, on peut la goûter avec vous.
Ah ben voilà, mais c'est formidable, ça c'est un grand moment de cuisine et d'histoire.
Par contre, j'avais une question à vous poser. Oui. Comment au Moyen-Âge ils faisaient pour mixer les fruits secs ?
Ah ! Et oui, on n'avait pas les magnifiques blenders et tout ça. Eh ben non, on avait des pilons, on avait des mortiers et on y allait comme ça avec l'huile de coude. Alors c'est vrai aussi qu'il y avait dans les cuisines, vous aviez de très 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 nombreux cuisiniers, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde qui y travaillait, donc ça facilitait la tâche dans le sens où vous n'étiez pas tout seul dans votre cuisine, parce que tout ça, ce sont des plats de riches, ce sont des plats de justement, c'était le cuisinier du pape, c'était des seigneurs, des rois, des princes, des ducs, mais voilà, on faisait ça. Et de même, il y a aussi un truc, c'est que ça, on le cuisait dans la cheminée, à la braise. Vous voyez ? Ah ah, il n'y avait pas le thermostat 7. Donc la cuisine était beaucoup plus compliquée. Donc là, vous avez mis 2 heures, mais eux, ils mettaient encore plus de temps.
Non, avec tous les plats qu'ils avaient à préparer, ils devaient passer des journées, quoi.
C'est vrai.
Bah oui, absolument.
Donc on va faire goûter la tarte.
Alors. Moi, je la trouve absolument parfaite. C'est-à-dire que, pardon, effectivement, j'ai l'habitude de la faire. Et j'ai l'impression de... C'est effectivement, c'est complètement ce que j'attends de cette tarte. Il y a le petit goût de cannelle hein, qu'on retrouve, parce que c'est vrai qu'il y avait la cannelle était vraiment omniprésente. On a bien les fruits secs. Moi, je dis chapeau.
Bravo. Merci.
Et vous, qu'est-ce que... Attendez, goûtez donc et puis donnez votre avis aussi. C'est une tarte d'hiver.
Typiquement. C'est vrai que, enfin, moi qui ne suis pas très fruit sec, j'aime bien en fait.
Ah ben alors, voilà.
Oui, c'est très bon, ouais, c'est vrai.
Super. Et votre pâte est excellente, vous l'avez faite vous-même ?
Oui, à la main.
Eh ben voilà. Mais c'est des... en plus d'être journaliste à la radio, vous êtes aussi cuisinière.
On peut pas t'avais dire ça, mais en quelque sorte.
Dans vos recettes, il y a souvent l'eau de rose qui revient. Alors, c'est quoi et où est-ce qu'on peut la trouver ?
Alors, l'eau de rose, c'était aussi, justement, comme le verjus, un produit qui était utilisé de manière la plus large qui soit. Alors, actuellement, il n'y a plus que les gens, les Méditerranéens, et notamment tout le Maghreb qui utilise de l'eau de rose. Donc, il vous suffit d'aller dans une épicerie maghrébine et vous trouverez de l'eau de rose. Une épicerie turque où vous trouverez, parce que ça, ils en font, justement, dans tous les gâteaux, il y a de l'eau de rose. Donc, vous trouverez sans problème. Et ça donne un petit truc très particulier. Il ne faut pas en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais juste une petite pointe et hop, ça donne quelque chose de différent.
Oui, parce qu'en fait, là, pour votre recette, on a un peu bigouillé quelque chose. Parce qu'en fait, on a pris du thé au jasmin et l'eau de rose.
Waouh, mais c'est très intelligent, ça. C'est très rusé, c'est... Et oui, c'est très créatif aussi. Ben, bravo. Ouais.
Merci. Bon, ben, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Cette interview a été réalisée par Étincelle, l'émission des jeunes pour les jeunes, avec Céline et Laurine, sur 48 FM.